Vous êtes sur RTL.
RTL 18h. RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. C'est parti pour RTL Soir, effectivement, jusqu'à 19h15 pendant l'été. Et à la une, une grande première dans l'histoire de l'audiovisuel public. Le patron sortant, en l'occurrence la patronne, est reconduite. Et ça n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Delphine Ernotte va donc bénéficier d'un nouveau mandat de 5 ans à la tête de France Télévisions. Explication d'Isabelle Morini-Bosse dans un instant. L'explication du drame de l'autoroute A7 dans la Drôme qui a coûté la vie à 5 enfants d'une même famille. L'entretien n'est pas en cause, c'est le turbo qui a cassé, entraînant une rupture du système de freinage, une fuite d'huile et l'incendie brutal du véhicule jusque dans l'habitacle et sa sortie de route. Un scénario donné par le procureur, vous entendrez les explications également d'un spécialiste auto. Le contribuable français n'a pas vocation à payer des masques pour tout le monde. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, assurant tout de même que ceux qui ne peuvent pas en acheter seront aidés. Le coût de la crise pour les exclus, les plus démunis, on en parlera notamment avec Marie-Alette Grard, la nouvelle présidente d'ATD Quart Monde. Elle prend ses fonctions aujourd'hui. Elle est aussi membre du conseil scientifique et elle sera l'invitée d'RTL Soir dans 20 minutes. Le mystère du déconfinement, une étude de l'INSEE basée sur les données des opérateurs téléphoniques révèle qu'une partie non négligeable des exilés du confinement n'est pas revenue au bercail après le 11 mai, près de la moitié. Le remaniement invisible de l'Élysée, à l'heure d'une annonce imminente de la liste des secrétaires d'État, le grand ménage est en cours autour du président de la République. Le chef de l'État, à l'évidence, veut reprendre les rênes. Emmanuel Macron, qui a confirmé hier soir l'aspect historique du plan de relance européen, l'Italie en sera, et de loin, le principal pays bénéficiaire avec plus de 200 milliards d'euros, mais ce ne sera pas sans contrepartie et nous verrons à quoi devrait s'engager l'Italie. Et puis le plus beau palmarès du sport français s'étoffe encore un peu plus. Le français Antoine Albault, 25 fois champion du monde de windsurf, a signé deux nouveaux records du monde de vitesse. Nous, plus modestement, on a le surf de l'été avec Cyprien Signy. Il nous emmènera au camping un peu avant 18h30. Et avant 19h, on revivra l'émotion de l'or olympique du duo Japlou-Pierre Durand. C'était en 1988. À 18h35, l'été meurtrier des festivals. Et nous irons à Marciac dans le Gers, où le Jazz in Marciac aurait dû accueillir environ 200 000 personnes à partir de vendredi. Jean-Louis Guillaumont, le maire et organisateur de ce rendez-vous jazz mondialement connu, sera donc avec nous. Le temps, Peggy Broche, avec demain un peu moins d'orages dans le sud.
Oui, Vincent, ils seront moins nombreux, moins forts et ça tournera à l'orage uniquement l'après-midi. Alors toujours entre les Pyrénées, le sud du Massif central et les Alpes. Et comme aujourd'hui, les bords de Méditerranée conserveront du beau temps. Le matin, ce sera plus variable sur ces régions du sud avec une petite averse possible. Et puis sur un quart nord-ouest, le ciel va se voiler au fil des heures. Ailleurs, ce sera du grand beau temps. Il fera toujours chaud demain, de 30 à 36 degrés dans le sud, de 25 à 30 au nord et 19 à 22 sur les côtes de la Manche.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Soir.
L'info est donc toute chaude, elle a quelques minutes. Delphine Ernotte est reconduite à la tête de France Télévisions. Le CSA a tranché, Isabelle Morini-Bosque.
Oui, le CSA a tranché, et vous pouvez dire que c'est vraiment tout chaud, parce que quand j'ai eu la communication du CSA à 17h, ils m'ont dit, franchement, on n'en sait rien, ce sera peut-être ce soir, plus sûrement demain. Bien malin qui peut le dire, ben, le malin l'a dit, c'est donc Delphine Ernotte qui est reconduite dans ses fonctions pour un nouveau mandat de 5 ans. Elle qui, durant les 2 heures hier, 1 heure en audition publique, 1 heure en huis clos avec les 6 membres du collège, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, a dit « laissez-moi finir ce que j'ai bien commencé ». Eh bien, elle a donc été entendue après avoir été écoutée. C'est donc elle qui va diriger ce paquebot de 9600 personnes que certains qualifient de temps en temps de bateau ivre avec un budget de 3 milliards d'euros, dont 500 millions à la création et 100 millions à la jeunesse. Elle l'a beaucoup martelé hier. Elle est arrivée avec un petit chignon serré, tout en noir et blanc, une petite capelette noire sur les épaules. Et elle l'a convaincue. Elle peut se vanter, donc vous l'avez dit, de réussir une première. Casser la malédiction qui voulait qu'un président ne pouvait jamais faire de second mandat avec ce diktat simple, puisque ça ne s'est jamais fait, cela ne se fera jamais. Tous les déjeuners en ville, en bruissaient. Et bien comme quoi, la preuve est faite, c'est possible. Et ça va mettre donc un terme à pas mal de discussions. Maintenant, il va falloir qu'elle planche, parce que la situation est quand même compliquée avec les 3 mois qui viennent de se passer. D'ailleurs, elle l'a dit, il faudra que j'aille négocier pour l'année 2021. Eh bien, bon courage.
Allez, on y reviendra plus longuement avec les tenants et les aboutissants de ce choix de renouveler donc Delphine Ernotte avec vous, Isabelle, tout à l'heure, avec votre rendez-vous à 18h50. Moins de 2 jours après l'épouvantable accident de l'autoroute A7 dans la Drôme qui a coûté la vie à 5 enfants, l'émotion est toujours aussi forte à Vénissieux, d'où cette famille était originaire. 4 autres membres de la famille d'ailleurs, dont un enfant de 7 ans et 2 adultes au pronostic vital engagé, sont toujours hospitalisés à Lyon. Mais d'ores et déjà, on sait ce qui a provoqué le drame. On sait pourquoi le moteur et l'habitacle du monospace se sont embrasés, Peggy Lieudonneau.
Effectivement, le pré-rapport de l'expertise judiciaire révèle que l'accident a eu lieu à cause d'une défaillance mécanique. Le turbo de ce véhicule datant de 2005 a grippé, ou plus simplement cassé. C'est ce qui a provoqué l'emballement, puis l'incendie du moteur. Le conducteur se trouvait alors dans la quasi-impossibilité d'arrêter le moteur. L'accident n'est donc pas dû à un manque d'entretien, et le contrôle technique qui n'avait pas pu être fait en mai dernier à cause du confinement n'aurait pas non plus changé les choses. D'après les premiers éléments, de la fumée blanche s'est échappée sur une certaine distance avant l'embrasement. Alors est-ce que le conducteur a voulu aller jusqu'à l'aire de service qui se trouvait à seulement 3 km du lieu du drame plutôt que de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence? L'interrogatoire du père de famille devrait lever les dernières zones d'ombre sur ce tragique accident.
Peggy Lieudonneau, un problème de turbo qui serait donc à l'origine de cette catastrophe et qui expliquerait l'incendie du véhicule, l'impossibilité de freiner. Écoutez ce qu'en dit ce spécialiste Christophe Teuil, le président délégué de l'Alliance nationale des experts en automobile.
On est sur une circonstance assez malheureusement traditionnelle d'un moteur qui casse par un emballement moteur par la rupture d'un turbo, vraisemblablement. Mais les freins, finalement, ont pu être endommagés. Hein, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas la cause, de la perte de contrôle. La perte de contrôle est sûrement liée à la panique qui a eu lieu et par là même à l'incendie, quoi. Moi, ce que je crois, c'est que du fait que le moteur ne cale pas, ne s'arrête pas, et le conducteur essaye d'arrêter son véhicule, la panique plus l'emballement du moteur a fait que le conducteur a eu le sentiment que les freins ne fonctionnaient pas, alors qu'en réalité, c'est le moteur qui, lui, était devenu fou, quoi.
Voilà, le président délégué de l'Alliance nationale des experts en automobile avec Julien Fautras. Mais où est donc passée la moitié des exilés du Covid? On aurait pu penser que les 1 400 000 personnes qui avaient bougé, changé de lieu de résidence, et souvent de région d'ailleurs au moment de l'annonce du confinement, avaient fait le chemin inverse après le 11 mai. Eh bien non, le système des vases communicants n'a pas fonctionné pleinement. Une étude de l'INSEE basée sur les données des opérateurs téléphoniques révèle en effet qu'il en manque près de la moitié à l'appel, notamment dans les grandes agglomérations, Christophe Ponzio.
Oui, prenez par exemple Paris. La capitale avait perdu 450 000 résidents au moment du confinement, soit 20% de sa population. Eh bien, Paris n'a récupéré que 60 000 habitants après le 11 mai, à peine plus d'un sur 10. La reprise des déplacements a donc été poussive. Autre phénomène relevé par l'INSEE, le déconfinement a fait perdre encore un peu plus de résidents à la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Rhône et les Hauts-de-Seine, des départements où les étudiants sont nombreux. Le déconfinement leur aurait enfin permis de quitter leurs villes universitaires. Enfin, vous vous souvenez que les destinations de campagne et de bord de mer avaient cartonné, hein, avec des grands flux de population. Eh bien, avec la fin du confinement, ce phénomène s'est accentué. La population de Lyon, l'Orne, le Lot, la Haute-Loire, l'Eure, l'Eure-et-Loire et l'Ardèche a continué de croître de 5 à 7%. Les week-ends, dimanches et ponts du mois de mai ont boosté les mouvements de résidents en direction notamment du littoral atlantique, Vendée ou Morbihan, alors que des mouvements inverses ont été constatés le mardi vers les différents pôles urbains. Preuve, selon l'INSEE, que le retour à la normale des déplacements n'aura été que partiel.
Christophe Ponzio, et puis Santé publique France publie aujourd'hui un premier bilan humain consolidé et confirmé de cette crise du coronavirus en France. Plus de 29 000 personnes sont mortes à l'hôpital. Durant le pic de l'épidémie début avril, la mortalité en France a été 60% supérieure à ce qu'elle est normalement. 93% des 29 000 morts avaient plus de 65 ans et il s'agissait essentiellement d'hommes. Allez, une courte pause et puis dans un instant, le nouveau chemin d'Emmanuel Macron, grand ménage à tous les étages.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
On attend toujours la liste des secrétaires d'État avec une question qui est donc toujours sans réponse. Y aura-t-il un secrétaire d'État à la cause ou à la condition animale? L'idée est dans l'air, mais rien n'est sûr tant que le remaniement du 6 juillet n'aura pas été officiellement complété et achevé dans les prochaines heures, dit-on à l'Élysée. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le président remanie bien au-delà du gouvernement. Le nouveau chemin dont il a parlé, c'est aussi un nouveau casting, William Galibert.
Oui, les nouveaux ministres ne sont comprends finalement que la façade de ce changement, il y a en ce moment d'énormes travaux d'aménagement intérieur, une sorte de remaniement invisible avec Emmanuel Macron comme chef de chantier. En 15 jours, le président a placé des hommes de confiance venus de sa garde rapprochée dans les cabinets de la justice, de l'intérieur et même à Matignon. Ça lui permet de garder un œil partout et de se débarrasser de plusieurs éléments qu'il jugeait incompatibles avec sa volonté de faire bouger les choses. Exemple frappant, l'éviction de Marc Guillaume, inconnu du grand public, mais secrétaire général du gouvernement, poste ultra stratégique occupé par ce haut fonctionnaire. Il y a aussi du changement à l'Assemblée où les marcheurs se cherchent un nouveau chef et au parti à La République En Marche où l'équipe dirigeante devrait bouger d'ici la rentrée. Enfin, un nouveau communicant en chef à l'Élysée est attendu en septembre. Si le président chamboule tout en coulisses, c'est pour mieux préparer la suite. D'abord, ne pas louper sa rentrée avec le plan de relance et garder la présidentielle en ligne de mire. Commentaire d'un très proche sur ces changements à l'appel. Tous ceux qui enterrent Emmanuel Macron vont très vite déchanter, dit-il. Il a de la ressource, il a du ressort et il compte bien le montrer dans les prochains mois.
Le président change ses équipes, mais sur le terrain, il joue collectif et mouille la chemise. Ça s'est passé cet après-midi à Chambord avec des jeunes des quartiers populaires bénéficiant du programme Quartier d'été mis en place par l'État. Ça a été l'occasion de faire un foot, les jeunes en chasuble et en short, le président en costume et en chaussures de ville. Apparemment, il a marqué. Mais bon, quand c'est le président qui est dans la surface, on y va quand même mollo en défense. Le plan de relance européen, qualifié d'historique par Emmanuel Macron, a bien sûr été largement salué en Italie, le principal pays bénéficiaire, avec plus de 200 milliards d'euros, dont 80 subventions en subventions non remboursables. Mais attention, il reviendra à la Commission de Bruxelles, puis au Conseil européen, d'approuver les plans nationaux pour accéder aux fonds de soutien. Un État pourra même demander la suspension du versement en cas de non-respect des engagements pris. C'est donc une aide sous condition et les Italiens vont devoir faire des efforts à Rome pour RTL, Anne Lenier.
Ces applaudissements en disent long sur l'estime dont jouit Giuseppe Conte, européen convaincu.
L'Europe s'est montrée à la hauteur de son histoire et de sa mission. Un changement radical des perspectives s'est réalisé hier.
Concernant les perspectives pour l'Italie, le chef du gouvernement n'a pas dévoilé dans tous ses détails son plan de relance. Il sera peaufiné par une équipe d'experts, mais les grandes lignes sont déjà tracées. Moins d'assistentialisme et davantage de chances données aux jeunes, dont 22% sont actuellement au chômage, des incitations fiscales pour les entreprises innovantes, des réformes pour accélérer la transition écologique et numérique, des investissements copieux dans les infrastructures et le secteur de l'éducation qui est un peu l'enfant pauvre du pays. Le défi est immense car jusqu'à présent, l'Italie n'a jamais brillé par sa capacité à bien utiliser les fonds européens.
Anne Lenier à Rome pour RTL. Et puis le sport, c'est vrai qu'il est une star dans son domaine, mais pas pour le grand public. Et pourtant, il a le plus beau palmarès de tous les sportifs français, jugé plutôt 25 titres de champion du monde. Alors si vous êtes amateur de planche, de windsurf, vous l'avez reconnu. À 48 ans, Antoine Albault continue d'ajouter des lignes à sa carte de visite. Il vient d'établir deux nouveaux records de vitesse, Eric Silvestro.
Oui, c'est sur la plage du Rouet à La Palme, dans l'Aude, qu'Antoine Albault a signé ses exploits. Et pas n'importe lesquels, Vincent, deux records en windsurf et en windfoil. Je vous passe les détails techniques des deux planches. Mais surtout sur une distance rare, le 1000 nautique, soit 1852 mètres précisément. Forcément, Antoine Albault ne pouvait que relever le défi.
J'y suis allé parce qu'ils annonçaient un bon vent, on s'est tous retrouvés là-bas. Et puis j'ai battu le record, j'ai fait 43 nœuds 04. C'est quasiment 80 km/h, mais cette distance-là, il y a pas grand monde qui l'aime parce que c'est un petit peu moins de 90 secondes à fond, tu vois. C'est vraiment super chaud à faire.
Ouais, les risées, les bancs de sable, la distance, il faut tout gérer avec une jambe d'appui arrière bloquée et des bras qui tirent. Mais notre champion français et son quintal, oui, il fait plus de 100 kilos, assure.
Ah mais moi je suis en forme, je suis en pleine forme. J'ai 48 ans mais j'ai l'impression d'avoir 25 quoi. Physiquement ça va super bien, j'adore ce que je fais, et puis c'est la passion avant tout.
Hein. Et d'ailleurs Antoine Albault ambitionne désormais de franchir la barre mythique des 100 km/h sur 500 mètres en planche à voile d'ici ses 50 ans, lui qui détient évidemment déjà le record avec 98,66 km/h.
Voilà, 25 titres de champion du monde, chapeau Albault. Allez, courte pause et puis dans un instant, la nouvelle présidente d'ATD Carbonde, Marie-Hélène Edgar, elle est l'invitée d'RTL Soir.
RTL Soir.